La raison pour laquelle le texte dans le premier chapitre de Bereshit exprime le bilan de l'heure de chaque jour par Vayehi Chen, et il en fut ainsi, alors que pour le premier jour, il n'y a pas Vayehi Chen, il y a eu Vayehi Or. Ça veut dire que c'est le projet lui-même qui s'est accompli, bien que nous avons vu qu'il s'accomplit à la mesure de ce monde-ci, avec une diminution d'être, d'existence plutôt, et qu'il y a Yehior, Bayehior. Ça, je crois qu'on l'a suffisamment analysé, ça nous a pris tout le temps. Mais je crois que, dans tous les cas, l'important, ce n'est pas tellement la connaissance abstraite de l'exégèse, c'est-à-dire de l'érudition à propos du texte formel. C'est toujours les implications que l'on peut en tirer, que l'on doit en tirer pour le comportement au niveau de la moralité. Vous vous rappelez de ça, okay. C'est-à-dire à quel thème cela se réfère, cela vient nourrir, c'est la perception ou l'impression de décalage qu'il y a entre ce que nous-mêmes pouvons avoir intuition d'un projet d'un monde réussi et d'autre part l'état du monde au niveau de la réalité. Vous vous rappelez de cela. Il y a un premier thème très important du point de vue de la théologie elle-même, c'est l'option monothéiste que, quelles que soient les apparences de décalage entre la réalité et la vérité, à propos de quelque valeur que ce soit, mais centralement les valeurs morales, il y a affirmation de l'unité ultime, dernière, fondamentale, de ces deux niveaux d'être. Ça va jusque-là ? C'est le premier principe que l'on a. Et étant donné que nous procédons d'une culture qui a des intuitions de base différentes, il y a les données de la conscience immédiate de l'homme culturel occidental sont autres, parce qu'elles ont un passé différent, qui est le passé gréco-romain, en dominante, bien que s'y soient greffées des évidences d'origine biblique. Mais malgré tout, fondamentalement, l'évidence immédiate de la conscience de la culture occidentale, c'est le dualisme, qu'on ne le veuille pas. Alors, il est évident qu'il ne suffit pas d'avoir découvert une fois les coordonnées de la pensée hébraïque pour qu'elles soient intégrées. Et il faut un long temps pour que cela chemine, pour que cela se nourrisse des expériences de la vie quotidienne et qu'en fin de compte, l'évidence soit intégrée. C'est bien clair. Donc, ce n'est pas pour rien que la question se reposera à vous, inévitablement. Le Talmud dit quelque part, il vaut mieux étudier 101 fois que 100 fois. Pourquoi 101 sans un autre problème? Enfin, vous comprenez l'idée. Je ne sais pas quel auteur français disait, je crois que c'est Bossuet, à propos de la poésie. Il faut remettre sur le métier 100 fois. Bon, je ne sais pas si Bossuet avait lu le Talmud, mais en tout cas, le Talmud n'avait pas lu Bossuet. On revient au problème. Et il y a une autre implication, c'est le fait que à chaque naissance, une personne nouvelle qui naît entre dans l'histoire du monde, hérite d'un monde qui est plein de ce passé d'approximation qu'il rencontre de ces déchets d'approximation dont il hérite à la naissance. Et il faut en tenir compte. Parce que c'est bien clair, ça veut dire que cette découverte ne peut pas servir d'objection quant au projet de la moralité selon le Créateur, puisque la Torah elle-même a prévenu cette objection, en nous indiquant qu'il en est ainsi, si j'ose dire. Vous avez compris, c'est clair? Et j'aimerais peut-être pour enrichir un peu cela, au niveau de la pédagogie de l'adolescence, c'est une donnée extrêmement importante. C'est une des manières négatives d'ailleurs, où dans la culture occidentale on signale, on signifie la sortie de l'adolescence, c'est quand se passe ce que je vais essayer de vous décrire. Jusqu'à un certain stade, toute conscience neuve, nouvelle, peut-être je devrais enlever ces adjectifs, enfin, toute conscience renouvelée à chaque naissance, a l'intuition, la décision d'être un héros de la moralité. Vous savez, c'est le thème romantique que chacun se voit comme un chevalier ou la dame du chevalier, vous voyez ce que je veux dire, qui va sauver le monde. Et puis à un certain stade, on s'aperçoit qu'il faut y renoncer, c'est un monde insauvable, c'est trop plein de déchets. Si le monde avait commencé avec moi, j'aurais pu le sauver. Mais il y a un passé dont je ne suis pas responsable et vous avez compris le problème. Et je crois qu'on peut définir comme un des commencements de la piété, c'est-à-dire d'accepter l'état des choses au moment où on les prend. Bien que, apparemment, le passé de mon monde, j'en suis pas responsable. En prendre la responsabilité, y acquiescer, c'est peut-être une des définitions du commencement de la piété. Est-ce que c'est clair ? Alors, vous voyez, il y a énormément de thèmes qui sont l'implication de cette remarque d'exégèse que la Torah dit, Vayichem, à propos de l'état du monde. Ça va jusque-là ? Il y a un... C'est bien clair, tiens. Il y a une indication qui est donnée par les Mefarshim, c'est que on peut comprendre ce décalage entre la réalité et le projet, entre réalité et la vérité du projet, en le reliant à un thème très schématique, mais très important, qui revient très souvent, la différence entre l'unité et la multiplicité. Si le monde est en harmonie d'unité de toutes les valeurs, alors ce décalage disparaît. Ce décalage apparaît lorsque le monde est encore dans l'état de multiplicité. Et j'entends bien que c'est un peu pas clair ce que j'ai dit là, mais j'espère que au moins formellement vous comprenez la différence. Le nombre mène la divergence, alors que l'unité résorbe cette divergence. Et c'est dans la divergence qu'effectivement est une des sources du mal, pour aller à la limite. Alors, la remarque, je vous la signale juste en passant. En général, dans la tradition biblique, on indique l'unité par la lettre Aleph, par définition, et la multiplicité par la lettre. Vous n'avez pas encore appris ça ? Bon. Le chiffre signifiant la multiplicité dans le vocabulaire biblique, c'est toujours 70. Il y en a d'autres, mais le chiffre de base, c'est déjà 2, le commencement de la multiplicité. Puis ensuite, vous avez 7, ensuite vous avez 10, à des niveaux différents, 12 qui sont 13, mais surtout 70. Et la valeur numérique de Chen, c'est combien ? Calculez, Kaf, ça fait 20. Et Nun, ça fait 50. Comme par hasard, ça fait combien ? 60. Ça veut dire déjà, dans Reichen, au niveau de la lecture algébrique, si vous voulez, Reichen, c'est l'indice de la multiplicité. Vous suivez ? On rattachera ça, le thème de la multiplicité, à ce que nous sommes en train d'apprendre dans notre cours, l'éclatement de l'unité humaine en diaspora des combien de nations ? 70. Alors, ce sont des formules qui sont très familières. Les 70 nations, ce sont les 70 nations de base après l'échec de la civilisation de Babel, les nations contemporaines étant les mille et une, multipliées par mille et une, combinaisons possibles de ces 70 éléments de base. Okay. Mais quand même, la mémoire traditionnelle a gardé l'identification de ces 70 nations de base, en particulier celles qui sont en rivalité la plus proximale avec l'identité d'Israël.
Vous suivez ? Comment est-ce qu'on passe du
1
au
70 ? Il y a un lien ? Du 1 au 70 ? Bon, je vous ferai une fois l'analyse du développement de la multiplicité. Simplement, retenez par postulat qu'en fin de compte, on va en tirer la conclusion de tout ce raisonnement que je n'ai pas fait analytique, comment on passe du 1 au 70, mais... utilisez cela comme principe, vous allez le retrouver dans énormément de problèmes. C'est Maharal surtout qui a mis en forme l'analyse à laquelle je fais allusion sans la citer parce qu'elle me prendrait une heure, en particulier dans plusieurs endroits de son œuvre, mais surtout dans un des commentaires sur les Mishnayot du Pirkei Avot. C'est pas aujourd'hui le moment, mais effectivement l'analyse existe. Ce que vous allez surtout utiliser, c'est ce principe que chaque fois que dans une donnée traditionnelle on veut parler de la multiplicité, il y a allusion à le passage de 1 à 70. Ça va jusque-là ? Donc, je vous donnais un petit exemple tout à l'heure, rappelle-moi. Non, je crois que je vous l'ai cité. L'exemple systématique, c'est les 70 nations, 70 langues, Shivim Lachon, Shivim Umot, Shivim Lachon, les 70 visages de la Torah. Vous avez entendu cette expression ? Shivim Panim la Torah. Et ça veut dire donc, c'est moi qui ajoute, hein. Je ne vous donne pas de source parce que je ne l'ai pas encore écrite, je ne pourrais pas vous la citer. Mais il y a un lien. Ça veut dire qu'à la limite, il y a un visage de la Torah correspondant à chacune des nations. Mais on a l'habitude, ça c'est moi qui ai ajouté, mettons en parenthèse. Mais on a l'habitude de citer ce principe chez une Panim la Torah, lorsque des sages d'Israël sont en discussion. L'explication est très simple. Chaque sage d'Israël, finalement, aurait dû être candidat à être le délégué d'Israël chez telle ou telle nation. Vous raccrochez ça avec la fonction de l'exil qu'on a déjà un peu entrevue, c'est clair ? Par exemple, lorsque 70 sages d'Israël se réunissent, ça s'appelle le Sanhédrin, okay, chacun d'entre eux est censé être délégué d'une des manières d'être homme qu'il a connu dans ses voyages d'exil. Vous avez compris, de telle sorte que ça s'unifie, vous voyez comment la multiplicité s'unifie à travers l'unité d'Israël. Un des niveaux de ce passage de l'unité à la multiplicité, ou de cette rédemption de la multiplicité dans l'unité, c'est le nombre des tribus d'Israël. C'est les 12 qui sont 13. Vous voyez comment ça se situe ? L'unité d'Israël se démultiplie déjà en 12 tribus qui sont 13. Pourquoi je dis 12 qui sont 13 ? Parce que la valeur numérique du mot Echad, c'est 13, vous savez, c'est... Et puis alors, dans l'allée de l'exil, ces 12 qui sont 13 deviennent 70. Et en particulier, vous avez un verset dans l'Exode que vous trouverez en son temps, que lorsque Jacob est descendu en exil en Égypte, les membres de sa famille étaient au nombre de 70. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'il faut un façonnement des visages, de telle sorte qu'il y a un visage correspondant à chaque dimension de la multiplicité humaine. Alors là, l'exil commence. Vous voyez, c'est aller vers le fait de se perdre dans le nombre, dans l'innombrable, si j'ose dire. Le niveau de la rédemption et de la Géoula est inverse. C'est-à-dire qu'on va passer des 70 aux 12 qui sont 13 pour arriver à 1. Il y a un verset que vous dites dans la prière du Shabbat après-midi, c'est un verset qui est cité dans le texte de la prière, « Umi ke amecha ke Israël goy echad ba'aret ». La seule nation qui est appelée la nation echad, une, c'est Israël. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle cette capacité de réunifier toutes les manières d'être homme à travers les juifs de l'exil. Vous vous rappelez de ces analyses, hein ? Le Rav Kook avait l'habitude de nous enseigner ce verset comme cela, Umi ke amecha ke Israël. Vous entendez les mots? Umi ke amecha ke Israël. Il y a des formules où c'est Umi ke amcha Israël dans certaines oussards. Mais le verset c'est Umi ke amecha ke Israël. Et qui est comme ton peuple, comme Israël? Goy echad ba'aret. Nation unique sur la terre. J'ai plein d'humour. Ça veut dire le seul goy qui existe sur terre, c'est Israël. Okay. Il y a compris. Je vais raconter une petite histoire après là-dessus, rappelez-moi. Marquez ce qu'il faut me rappeler, je vous dis. Et il avait l'habitude de lire comme cela, « Umi ke amecha ke Israël goy echad ba'aret ». Ça veut dire, quand Israël est ba'aret sur la terre d'Israël, il est un. Quand il n'est pas ba'aret, il n'est pas un. Vous avez compris ? La multiplicité des Kehilot, et puis l'unité de la nation. Vous avez le verset en tête maintenant. « Umi ke amecha ke Israël goy echad ba'aret ». Bon. Lorsqu'en Russie, on a commencé, au temps des tsars, à traduire le livre de prière, il y avait la censure. L'ennemi des Russes à l'époque, c'était les Turcs. Alors les censeurs avaient obligé les rabbins de Russie à traduire en russe, et qui est, comme ton peuple Israël, turc unique sur la terre. Parce que Goy, c'est les Turcs pour les Russes. Non, c'est pas une blague, ça s'est passé comme ça. On vient chercher une tête de Turc. Bien. Alors, quand je vous ai parlé de tout ça, oui, à la fin, je vais vous donner un exemple. Après l'épisode de la faute du premier homme, qu'on n'a pas étudié, qu'on étudiera à la fin de l'année, et le texte nous dit que l'homme s'habilla de tuniques de peau. « Vaya'as la'em kutnot or ». Et ici, en plus que l'idée de multiplicité, il y a une idée d'opacité. Il y a un midrash qui indique que Rabbi Meir, dont vous entendrez beaucoup parler dans la Gemara, en Mishnah déjà, la Gemara, Rabbi Meir, dans sa Torah, lui, il avait écrit notre or de lumière. Voilà la différence entre la lumière et la peau. C'est la. Vous y êtes ? Voilà un exemple. Il y a un. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Rabbi Meir nous fait lire avant l'opacité, Alors l'homme était habillé de tunique de lumière. Ça veut dire quoi? C'est un problème très important pour nous, dans notre civilisation, même à travers toutes les civilisations. De nouveau, ça se relie par un certain biais au problème de la communication. Vous avez vu comment, dans le récit de la Bible, je ne sais pas si vous l'avez vu avec moi ou si je l'ai vu avec vous, que la catastrophe entre Caïn et Abel, c'est l'impossibilité de la communication. Ils ne se parlent pas, vous vous rappelez de cela? Vous avez étudié cela. Et quand ils se parlent, c'est pour se disputer. Et alors, c'est l'opacité des personnes. Les personnes sont opaques l'une par rapport à l'autre. Vous voyez, deux stades possibles. Ou un stade, la peau de lumière, la tunique de lumière, il y a transparence entre les individus. C'est une des dimensions du problème. Okay? C'est-à-dire, chaque individu est ce qu'il est. Dans la tradition juive, on refoule absolument ce qu'on trouve dans les traditions extrêmes orientales, le fait de se fondre dans un tout anonyme. J'enlève anonyme. Enfin, le fait de se fondre dans un tout impersonnel. Okay? Est-ce que c'est clair? C'est un peu l'idéal de la mystique extrême orientale. Perdre son individualité, parce que l'individualité, c'est la cause de ce que je souffre. Alors, pour enlever souffre, j'enlève je. Vous suivez? Vous avez compris ça? Et la vision de la Torah est au contraire la construction de ce je. Anochi Hashem Elokecha. Et la culture occidentale balance entre ces deux pôles-là. Et qu'est-ce que je disais juste avant? De quoi je parlais juste avant?
L'opacité.
Oui, il y a génie individuel de chaque personne, de chaque sujet, de chaque jeu, okay? Mais au niveau lumière, il y a transparence. C'est clair ce que je dis là? Le seul exemple que nous pouvons avoir dans ce monde-ci d'expérience de cela, c'est l'amour. Okay? Un amour authentique, c'est quand on n'a plus besoin de se parler. On n'a plus qu'une seule chose à dire pour confirmer de temps en temps. On fait trois fois la prière par jour, mais c'est « je t'aime ». C'est clair. Alors que le deuxième état de chute, si vous voulez, entre guillemets, c'est qu'il y a opacité entre les personnes, la peau. Ça va jusque-là? Et la seule communication possible, c'est la parole. Et le problème de la parole, on l'étudiera aussi pour lui-même, mais le rôle que va jouer, la capacité de parole de l'homme, et surtout quand vous étudierez les psaumes, vous verrez à quel point, rappelez d'une fable d'Ésope, que la langue, ça peut être la source de tout le bien ou la source de tout le mal, ça vous dit quelque chose, ça? On se doit être dans la fontaine, okay? C'est bien clair. Enfin, dans le Midrash, on raconte ce thème comme ça, que un jour... Un rabbin était invité chez un juif, alors le juif, pour l'honorer, lui a dit « Dis-moi ce que tu veux qu'on te prépare à manger. » La meilleure chose au monde. La meilleure chose au monde, de la langue. Et puis il arrive au repas, et le juif commence à lui raconter toutes les histoires de la communauté. Il a dit « Je t'ai demandé de me servir la meilleure chose au monde. Tu m'as servi la pire chose au monde, la langue. » J'ai compris. Bon, je referme la parenthèse. Et... Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le problème de la transparence et de l'opacité. Ça va jusque-là?
Moi, je vous demande pourquoi pour qu'elle soit servie, on dit très et qu'on ne dit pas à une.
Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai dit que 70, c'est Aïn, la lettre Aïn. Et que voilà, que ce Vaïchen, l'approximation de pluralité-opacité, Vaïchen, la valeur numérique du mot Chen, c'est 70. C'est clair? Tu vois? Comment on dit l'œil en hébreu? Bien. Bon, alors, à partir de là, je crois que du point de vue de la méthode, c'est très important ce que nous revoyons ce matin. Ne restez jamais avec comme ça des correspondances formelles, abstraites, exégétiques, d'exégèse en l'air. C'est de la fausse culture, c'est de la fausse sagesse, plus exactement. Ce n'est que quand vous avez compris les implications pour le comportement moral, je raccourcis tous les niveaux d'être, que ça commence à prendre un sens de Torah. Sinon, c'est comme si le bon Dieu nous avait envoyé la Bible pour faire des mots croisés avec. À peu près, et il y a énormément de gens qui s'en servent comme ça. Des professeurs d'université, ils font des mots croisés avec n'importe quoi, ce que vous voulez. Vous y êtes? Ça va? Méfiez-vous de ça. Des mots croisés. Regardez jusqu'où va l'imprégnation de la culture chrétienne. Les mots en croix. Même les mots. Vous avez un ami qui était rabbin en France, qui disait, entre autres choses, que dans ses discours, dans ses sermons, il faisait très attention à l'emploi des adjectifs. Par exemple, je ne parle jamais, qui disait, d'un moment crucial, parce que c'est très difficile de parler français pour un rabbin. Bon, bref, on revient au problème. Phrase non payée par l'agent juif. Voilà pour l'analyse d'hier. Ça va jusque-là ? Alors vous retiendrez cet exemple qui est très classique. Et il y en a d'autres. Le passage de Aleph à Aïn, c'est la descente dans le nombre. La remontée du Aïn dans Aleph, ça c'est la rédemption. Ça va ? Bon. Alors je vais aborder la question de la différence des deux manières d'être tzaddik. Alors vous rappelez que dans le cours, on a étudié cela lorsqu'on a abordé la comparaison entre ce que le texte dit de Noach et ce qu'il dit d'Abraham. Vous vous rappelez ? Alors, les formules sont beaucoup plus pleines que cette implication que j'ai mise en évidence, la différence de deux manières d'être tzaddik. La formule à propos de Noach, c'est « Et ha'elokim italech Noach ». La formule à propos d'Abraham, c'est « Lifnei Hashem, italech lefanai ve'yetami ». Ça, on en a eu dans le cours, je reviens pas. Est-ce que je devais avec les deux classes ou simplement la Kitabet ? Vous vous rappelez de l'étude de ces versets ? C'est la Kitabet ou les deux classes ?
Les deux classes.
Alors, là, du point de vue de la méthode, il est évident que la comparaison de ces deux formules selon le Midrash, est beaucoup plus riche et pleine et variée de thèmes différents que celui-là qu'on va isoler. Alors, nous allons prendre comme postulat que la définition du tzaddik, à travers le terme français, c'est un homme qui se conduit avec justesse par rapport à une norme, par rapport à une loi de vérité morale, ce qu'on appelle une table des valeurs. C'est là jusque-là ? Retenez bien cette étymologie que j'ai analysée longuement dans le cours. Okay. La justice est une des dimensions de la justesse. C'est la justesse au niveau de la moralité. Être juste dans le sens strictement étymologique. Ici, on est bien aidé par la correspondance du français et de l'hébreu. Okay. Je vous avais signalé en passant que le français ne dispose pas du tout de correspondance pour le mot de rachat, qui est l'opposé à tzaddik. Parce que ça nous est une parenthèse trop grande, si c'est nécessaire, j'y reviens. Alors, tzaddik, ça veut dire le juste. Je vous ai rappelé, en tout cas, parenthèse indispensable, que le vocabulaire dont nous disposons dans les langues modernes occidentales ne dispose pas d'une vision précise des différences entre les niveaux de valeur. Il y a une confusion, un flou dans tout ce vocabulaire, juste, sain. Parfait, tout ça, ça va ensemble, on ne se rend pas compte de la différence. Je vous ai signalé ça. Et en général, les langues occidentales modernes, les langues du Moyen-Âge étaient beaucoup plus concrètes et précises, elles se sont devenues abstraites et inaptes à la désignation des réalités spirituelles. C'est Bergson qui a fait cette analyse en son temps. On est devenu très compétent dans ces langues modernes, civilisées, occidentales, pour désigner les nuances de la matière, on ne sait plus désigner les nuances de l'esprit. C'est clair ? Bon. C'est un problème que vous rencontrerez surtout dans la traduction des prières. Surtout la traduction des psaumes, qui est une des traductions les plus difficiles en langue moderne, à cause de cette extraordinaire richesse de désignation des réalités de l'esprit dans le langage des psaumes, qui finalement, pour un moderne, surtout occidental, les orientaux ont gardé une expérience beaucoup plus riche de cela, semble être plate. On répète la même chose avec des mots qui veulent dire la même chose, alors que c'est pas vrai, c'est pas la même chose, et les mots ne veulent pas dire la même chose. Bon, vous comprenez ? Quel exemple je vous ai donné ? La confusion qu'il y a entre âme, esprit, etc. Vas-y. Ça, on aura à l'apprendre quand même plus en détail. Alors donc, tzaddik, ça veut dire le juste. Bon. Finalement, pour être les conditions de possibilité pour être tzaddik, ça implique trois données. La bonne volonté, la connaissance de la table des valeurs et la liberté. Alors, on va admettre comme postulat que la liberté est acquise, et que la bonne volonté est acquise, et je définis tout de suite la bonne volonté dans notre sujet, la volonté bonne, c'est-à-dire préférer vouloir, volonté, préférer vouloir le bien que le mal. Quel bien, quel mal, pour le moment, tu suis, comme je le connais. C'est l'épreuve de la bonne foi, la bonne volonté. Et je pense que c'est cela qu'il faut surtout éclaircir pour que vous compreniez le problème. Okay. C'est-à-dire, c'est moi qui me définis moi-même dans le geste de ma volonté comme tzaddik ou comme rachar. Si je préfère le bien que moi je connais comme bien, j'en connais pas d'autre, okay, au mal que je connais comme mal. Le mot de tzaddik ici, au niveau de la bonne volonté, définit une attitude de la volonté. C'est-à-dire, celui qui en général, systématiquement, préfère le bien au mal est appelé tzaddik. Celui qui, en général, systématiquement, préfère le mal au bien est appelé rachat. Okay. Et au niveau ponctuel, dans le moment où quelqu'un préfère le bien au mal, il est appelé tzaddik selon ses actes, et dans le moment où il préfère le mal au bien, il est appelé rachat selon ses actes. Dans la première formule, de l'attitude globale de la volonté, c'est au niveau de l'être. Tzaddik dans son être, rachat dans son être. Ça veut dire quoi? Dans la manière dont il préfère vouloir. En général, il préfère vouloir le bien qu'il connaît comme tel au mal qu'il connaît comme tel, et donc ça trompe personne. Okay? Parce que la seule personne qu'on ne peut pas tromper, c'est soi-même. Premièrement. Okay? Et puis, on ne trompe pas les talmidei chachamim, ni les psychiatres. Et c'est clair, retenez bien ce principe. Ça vous aidera dans votre mise au point intérieure personnelle. On ne se trompe pas soi-même, ça n'existe pas, à moins de troubles psychiques très graves. D'ailleurs, le signe du trouble psychique grave en question. Hein, par exemple, dédoublement de la personnalité, etc. Donc, donc, ces deux données étant acquises, j'admets par postulat qu'il y a liberté. On a appris que si le monde est devenu la nature, c'est pour que... C'est clair ? Bon. Bien que nous sachions que... Il y a des niveaux de la capacité de liberté, on se libère dans chaque acte libre, on est plus ou moins libre parce qu'on est conditionné, mais la volonté, elle, reste absolument libre. Le commencement de la volonté, c'est la volonté, elle-même. C'est-à-dire, ce qu'il y a de libre en nous, de façon absolue, c'est la volonté, le vouloir. Le pouvoir n'est pas forcément libre, mais le vouloir est absolument libre. C'est-à-dire, si la volonté n'est pas infinie, elle n'est pas. Est-ce que c'est clair? C'est probablement un exemple d'une chose qui commence par elle-même, d'une réalité qui commence par elle-même. Donc c'est un réchit, le ratson. La volonté décide entre des motifs et des mobiles, mais sa manière d'être, son essence, c'est d'être libre absolument. Et elle est d'autant plus libre que elle est capable de maîtriser un jugement de motif ou de mobile. Okay. Mais ce n'est pas nécessaire d'arriver à ce stade de l'intelligence, de la connaissance des motifs ou de l'intuition des mobiles. Okay. Les mobiles, en général, sont des mobiles d'intérêt, alors que les motifs sont des motifs d'idéaux. Mais motif, ça veut dire ce que je perçois par mon intelligence, mobile, ce que je ressens dans mon instinct, okay, dans mes tendances. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas abdiqué sa volonté, et la majeure partie des hommes ont abdiqué leur volonté, alors ils fonctionnent comme des êtres conditionnés absolument, comme des êtres de nature. Je crois que l'exemple le plus clair, c'est le problème de la mode, la propagande, ça va ensemble, la publicité, tout ça, la télévision. C'est-à-dire on est fabriqué par des conditionnements téléguidés par des intérêts supranationaux, des multinationales. Vous voyez ce que je veux dire? Et énormément de... C'est une catastrophe, ça, la radio et la télévision, pour la liberté humaine. C'est le bourrage de crâne, c'est là, etc. Donc, et c'est surtout l'uniformisation des comportements et des conditionnements. Et alors, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait des télévisions chez eux, à cause des enfants. Mais c'est très bien aussi à cause des adultes. Et si Hitler a pris le pouvoir, c'est avec la force de la radio. Il y a un grand philosophe suisse qui s'appelait Picard, son prénom m'échappe, qui a écrit un très beau livre. Je crois que c'est un juif converti au protestantisme, au machin vous casez, du début du siècle. Et il faut que son prénom me revienne. Bon, il a écrit un très beau livre qui s'appelle Le monde du silence. Si vous avez une fois trouvé ce livre dans une bibliothèque, lisez-le en silence. Okay. Et où il explique cela. C'est que ce qui manque à l'homme moderne, c'est le silence. Et que la catastrophe, c'est la radio. Vous avez remarqué cela, okay, je suppose. Et il explique l'emprise du nazisme comme étant l'emprise du bruit. C'est le bruit qui a triomphé avec le nazisme. Donc, pas seulement les bruits de bottes, mais enfin tous les bruits. Je referme la parenthèse. Et je vous ai dit au début de l'année que l'homme a besoin de silence, de zones de silence. Ceux qui ont peur du silence, il faut aller voir un médecin tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont peur de leur voix intérieure. Ça va jusque là. Top. Et alors, de quoi je parlais juste avant? Oui, c'est la volonté, mais il est évident qu'elle peut s'abdiquer. Alors on a affaire à des robots, des êtres à l'apparence humaine, mais qui ne sont que des entités biologiques. Ça s'appelle un golem en hébreu. Vous savez, c'est un golem, un robot. Et de temps en temps, il y a un petit éclair de personnalité qui apparaît, la volonté fait un petit clin d'œil, mais c'est en général, c'est en affaire des êtres conditionnés. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de totalitarisme dans les sociétés contemporaines. C'est-à-dire, une fois qu'on a abdiqué sa volonté libre, alors on est candidat à un régime autoritaire, à une tyrannie. Et encore les tyrannies de l'Antiquité, comme vous le savez, si vous avez étudié ces problèmes, le tyran, c'était un roi éclairé. Mais le mot de tyran est devenu fasciste. C'est alors en tout cas, pour revenir à notre problème, on va admettre comme postulat que la liberté existe, elle est conditionnée mais elle existe, que la bonne volonté existe, c'est ça le candidat à être tzaddik, okay. Va rester une troisième donnée qui fait problème, la connaissance de la véritable loi de table des valeurs. Si je ne connais pas la véritable table des valeurs, la bonne volonté libre va échouer quand même. Parce qu'elle sera désorientée, littéralement, elle ne saura pas où est le bien, où est le mal. Je veux le bien plutôt que le mal. Mais où est le bien, où est le mal? C'est clair? Parenthèse. La situation la plus simple, c'est quand je rencontre une alternative aussi tranchée. Ça c'est bien, ça c'est mal. Alors c'est très simple d'être sadique ou rachard. En général, la vie morale n'est pas faite d'alternatives simples, blanc-noir. En général, il faut choisir entre différents biens. Et choisir tel bien plutôt que tel autre, c'est mal. Choisir tel bien plutôt que tel autre bien, c'est bien. C'est le problème de la conscience du tzaddik. Bien sûr qu'il a dépassé cela, ça va de soi, au-delà, entre le bien et le mal. Mais son problème, c'est entre tel ou tel bien. Ça s'appelle comment en français, ce souci d'avoir à choisir entre deux devoirs, le cas de conscience. Et par conséquent, en fin de compte, quand je parle de la table des valeurs, il faut que j'arrive à un shulchan aour, littéralement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un code des cas. Ça s'appelle la casuistique. Ce mot est devenu péjoratif en Occident, à cause de ce qui est arrivé au Moyen-Âge avec la casuistique, okay, le coupage des cheveux en 18, le pile-poule effréné. Okay. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de doute que si on ne dispose pas d'un shulchan aour, c'est-à-dire d'un code de la casuistique, on ne s'en sort pas. Vous avez compris le problème? C'est bien clair. Parce que le vrai problème, c'est le cas de conscience. C'est pas tellement choisir entre le bien et le mal. Ça, c'est simple. Ça va jusque-là? Par exemple, est-ce que je ferai ma alia ou je m'occupe de ma grand-mère? Ça, c'est le cas de conscience par excellence. Vous avez compris le problème? Donc, réponse? Pas encore, la fin d'année. La grand-mère, vous avez compris ce que je veux dire. Eh bien, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de règle. Chaque cas est un cas particulier qui s'étudie pour lui-même. Vous voyez, casuistique. C'est clair? On connaît la règle, mais au niveau de la vérité. Au niveau de la réalité, eh bien, il faut faire un procès particulier dans chaque cas. Vous comprenez, c'est de la casuistique, c'est bien clair. Alors, sur cette troisième donnée, va apparaître un problème important, c'est est-ce que tous ont accès, est-ce que c'est universel ? Est-ce que tous, est-ce que c'est une donnée universelle ? Est-ce que tous ont accès à la connaissance morale ? La connaissance de la moralité, de la table des valeurs, s'appelle l'éthique. L'éthique, c'est la science de la table des valeurs. C'est clair jusque-là ? Est-ce que l'éthique est universelle ? L'accès à l'éthique est universel ? Je reviens un peu en arrière. On a appris que la dimension de liberté est universelle. Alors, on l'a appris dans les cours sur le Shabbat. Vous vous rappelez ? Toute créature est candidate à être libre. Elle peut... J'ajoute ça, parce que l'expérience m'a montré qu'il y avait des objections qu'il faut réfuter à l'avance. Elle peut abdiquer sa liberté. Bon, mais on ne fonde pas une règle sur le cas anormal. C'est clair ? Même si l'immense majorité des hommes ne sont plus libres parce qu'ils ont abdiqué leur liberté, et indépendamment des cas pathologiques où les conditions corporelles ont pris le dessus sur la capacité de la liberté, c'est au niveau du pouvoir, au niveau du vouloir, le vouloir est intact. Encore une fois, la volonté est infinie ou elle n'est pas. Je dois pouvoir vouloir n'importe quoi. Sinon, c'est que je ne suis pas capable de vouloir. Quand un enfant veut la lune, il a raison. Il exerce sa volonté. C'est clair, c'est... Et maintenant, le pouvoir, est-ce que je peux avoir la lune ? Ça, pour 6000 ans de civilisation, pour arriver au satellite. Ça, c'est le pouvoir. Mais le vouloir doit être infini, sinon il n'est pas. C'est clair ? Est-ce que j'ai... Bon, vous voyez, quelle est la tangente qui apparaît dans ce problème ? Il y a aussi un jugement de valeur. Est-ce que c'est bien de vouloir le mal ? Mais il faut que je sois capable de vouloir le mal pour que mon vouloir soit là. Quelqu'un qui ne peut pas vouloir le mal n'a aucun mérite à vouloir le mien, par exemple. Hein ? C'est un peu schématique ce que je vous dis là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Si vous êtes traversé par une envie du mal, eh bien, ce n'est pas grave. Il faut se laisser traverser. Si vous criez avec, ça devient grave. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je répète ça. Oui, criez avec, enfin, parlez avec. Si j'adhère, quoi. C'est pourquoi il faut pas s'exposer à déclencher ces envies-là. Mais du fait que ça me traverse, je ne suis pas responsable. C'est quand je vais avec que je deviens responsable. C'est clair ? Vous avez bien compris. C'est pourquoi il y a des lectures pas recommandables, des photographies pas recommandables, des affiches pas regardables. Pourquoi ? Parce que ça déclenche des... Bon, le fait que ça me traverse, bon, ben ça m'a traversé, c'est pas moi qui ai inventé la mécanique de la créature humaine, j'en suis pas responsable. Il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça, je suis capable de vouloir ou le bien ou le mal, mais si je me laisse traverser, je me laisse traverser également. Si ça m'intéresse, alors là on commence à s'occuper de moi. Vous avez compris le problème. C'est bien clair, vous voyez que toujours la responsabilité est dans la volonté d'abord. Ça y est, c'est clair ? Top. Et alors, est-ce que c'est une donnée universelle de l'accès à la connaissance éthique, à la connaissance de la vraie loi ? Voilà notre problème. Ça va jusque-là ? Je vous répète, l'analyse, elle est au fond très simple. J'admets que la dimension de liberté est de l'ordre de l'universel. J'admets que la dimension de la bonne volonté est de l'ordre de l'universel. Parce que la bonne volonté, c'est de l'ordre du vouloir. La chose la mieux partagée au monde n'est pas la raison, comme disent les philosophes. Je reviendrai sur l'analyse de Descartes, si vous voulez. C'est la bonne volonté. Et par conséquent, le jugement de la moralité... passe par la bonne volonté avant de passer par l'intelligence. C'est bien clair. On n'est pas jugé sur notre capacité d'intelligence. La capacité d'intelligence, c'est ce que l'on en fait, c'est une des vertus. Mais le jugement de la moralité est d'abord au niveau de la bonne volonté. C'est la grande différence entre la morale de la Torah et la morale des philosophes. Okay, les philosophes feignent ce postulat, c'est une feinte. Que la raison est la chose la plus partagée au monde, la mieux partagée au monde. La formule est de Descartes. Okay.
C'est une formule en fait.
Non. C'est une ruse de la philosophie. Je vais vous montrer comment. Non, les philosophes y croient vraiment. Seulement voilà ce qu'ils veulent dire. La raison des philosophes est la chose la plus partagée entre les philosophes. La morale philosophique c'est une morale d'élite. C'est une morale orgueilleuse d'ailleurs. C'est une morale méprisante pour ceux qui ne sont pas philosophes. Spinoza. Okay. Vous suivez l'analyse. J'ai appris surtout ça dans le texte avec Épicure, et surtout en latin Lucrèce. Okay. Je pourrais même vous citer ça en latin. Enfin, c'est pas l'endroit, c'est dommage. Vous voyez l'épicurien, qui est un philosophe très, très fin. L'épicurien, c'est pas le jouisseur grossier. Hein. Ça, c'est une erreur de l'histoire de la philosophie chez les ignorants. Quand on dit de quelqu'un qui est jouisseur grossier, la morale du plaisir, que c'est l'épicurisme. C'est pas vrai. L'épicurisme originel, c'est la morale du plaisir intellectuel. Les mots croisés. Oui, ces gens qui sont les échecs, le bridge, ça, c'est l'épicurien, le noble, au niveau. Étant donné que la vie n'a pas de sens, je schématise beaucoup l'épicurisme, à quoi passer son temps? Eh bien, passer son temps à des plaisirs grossiers, ça, c'est pas digne d'un philosophe. On va passer son temps à l'exercice de l'intelligence, pour pas s'ennuyer. C'est clair? Alors, l'occupation la plus noble, c'est les jeux d'échecs. Vous avez compris ce que je dis? Et si on s'occupe de la Bible, il faut bien gagner sa vie, alors on fait des mots croisés avec. Oui, c'est ce que je fais. Et en réalité, cette morale de la jouissance grossière qu'on appelle à tort l'épicurisme, les épicuriens, c'était la morale d'Aristide de Cyrène. Ça s'appelle le cyrénaïsme dans l'histoire de la philosophie. Bon, par exemple, vous voyez, il y a des boîtes de camembert où vous voyez un moine mangeant du fromage. Et c'est pas ça, un moine. Un moine ne mange pas du fromage sur une boîte de camembert. Ça, c'est la même erreur. C'est clair? Eh bien, je reviens donc à notre problème. Pourquoi je vous ai parlé de l'épicurien? Oui, que la morale philosophique est une morale d'une élite, une morale aristocratique. Et alors, et Lucrèce commence son poème par cela qu'il est beau d'être sur les cimes et de voir en bas de la montagne le vulgaire, le pécus, là, je ne sais pas comment ils appellent ça en latin. Le vulgus, vous connaissez ça, la foule sur le rivage. Ça concerne que les philosophes, cette formule, la raison est la chose la mieux partagée au monde. Vous savez, il y a quelques grands philosophes.
La raison, c'est le bon sens.
Le bon sens, mais c'est le bon sens de la raison chez Descartes. C'est la même chose. Le bon sens, ça, c'est la formule populaire. Mais chez Descartes, c'est la raison. L'évidence rationnelle, le bon sens. L'objection, c'est Kant qui l'a lui fait, en disant, s'il en était ainsi, pourquoi il n'y a pas une moralité universelle? Puisque tout le monde est censé être doué de raison, de bon sens, hein, comment ça se fait que ça ne marche pas? Mais surtout, la critique que je voudrais faire, du point de vue de la tradition juive elle-même, c'est que c'est faux. La capacité d'intelligence n'est pas la chose la mieux partagée au monde. C'est pas vrai. Si la morale dépendait de l'intelligence essentiellement, il y aurait une injustice fondamentale. Seuls les philosophes seraient sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non, la clause essentielle, c'est la bonne volonté. Et bien sûr, il faut que cette bonne volonté soit éclairée par la connaissance. Donc la connaissance est très importante, mais ce n'est pas l'essentiel au niveau de la moralité. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Vous avez compris le problème?
S'il n'y a que la bonne volonté.
Attends, on y arrive. Mais pour le moment, on est sur un point très important. La bonne volonté est une dimension universelle, alors que la capacité rationnelle n'est pas une dimension universelle. Vous avez quelqu'un qui n'a pas passé son baccalauréat, okay, le certificat d'études d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas être moral? Vous voyez? Peut-être Dafka, ça l'empêche d'être moral. Alors, vous voyez, c'est un autre exemple de dépaysement. On s'est baladé avec cette pseudo-évidence que c'est la raison qui commande la capacité morale, c'est pas vrai. Et dans le Talmud, il y a une indication presque inverse. Il faut se méfier des gens intelligents, s'ils ne sont pas moraux d'autre part. Parce que quelqu'un d'intelligent qui ne serait pas moral, c'est la catastrophe, c'est le serpent, okay, la ruse. C'est clair. Ouais, vous comprenez bien ça, okay. Non, mais c'est une consigne de la morale rabbinique qui est très importante. Il faut se méfier des gens intelligents s'ils ne sont pas d'autre part des tzadikim. Prenez par exemple la civilisation nazie qui est sortie de la civilisation allemande. L'indice de civilisation de l'Allemagne est un très grand indice de civilisation. Le problème, qu'est-ce que c'est que l'indice de civilisation? C'est un autre problème. Mais admettons qu'on sait comment mesurer l'indice de civilisation. Il n'y a pas de doute que la civilisation allemande a été une très grande civilisation. des grands philosophes, des grands musiciens, des grands savants, des grands chercheurs, tout ce que vous voudrez. Il a manqué une clause de moralité. Alors on a eu affaire à une civilisation devenue hypertrophiée au niveau de la raison, et puis en syncope de moralité. Vous voyez bien que ça ne va pas ensemble. C'est clair ? Je vous dis, parler très rapidement de la civilisation, c'est un des problèmes les plus difficiles de la civilisation contemporaine, parce que chaque société propose le sien. Pour les Américains, c'est la quantité de papier journal qu'on trouve dans les poubelles, au point. Plus il y a de papier journal dans la poubelle, plus la civilisation est élevée. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou de papier qui enveloppe les sandwichs. Il me semble que l'UNESCO a établi que pour l'Europe, en tout cas, on pourrait dire, et ça ressemble à l'Amérique, que c'est la quantité d'électricité dépensée par année par tête d'habitant, 20 kW. Vous voyez, c'est au niveau du critère matériel.